Alors ce soir, moi je vous fais une promesse, où que vous soyez, ça vous concerne vous aussi Adrien, vous n'allez pas vous sentir seul. Alors le départ est assez trépidant, j'espère que je vous prends pas trop de cours. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Je suis sûr que vous avez entendu au début de cette chanson le public scander Angus, 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 bah, comme Angus Young, évidemment, le guitariste en culotte courte et aux cornes du diable du groupe australien AC/DC, ACDC, c'était il y a bien longtemps, hein, le 30 avril 1978, très exactement sur la scène de l'Apollo Theatre de Glasgow en Écosse. La chanson Whole Lotta Rosie était interprétée par le légendaire Bon Scott, hein, le chanteur dont la voix a fait connaître ce groupe dans le monde entier et qui allait mourir mourir accidentellement moins de 2 ans après. C'est lui qui avait écrit les paroles de cette chanson, Whole Lotta Rosie, tout un tas de Rosie, pas très élégant comme formule, en l'honneur, enfin si on peut dire, d'une femme plantureuse qui avait attiré le jeune Bon dans son lit lors d'une tournée en Tasmanie. Et cette Rosie, enfin c'était sa réputation, était une mangeuse d'hommes à l'imposant tour de taille, et elle avait prétendu au jeune garçon, était-ce pour l'impressionner sûrement, qu'il avait été le 29e homme célèbre qu'elle avait consommé depuis le début du mois. C'était peut-être une année bissextile. Voilà, bon, il fallait que je la fasse. Bon, en tout cas, c'est ce que la légende a retenu. En tout cas, cette année-là, oui, c'était pas, ben, en février, oui, en effet, me fait remarquer Stéphane, c'est, ben oui, ça colle. Bref, donc, il m'a distrait. Alors, c'était en 78, donc à Glasgow, le groupe AC/DC, déjà couronné par un succès international, jouait, pour ainsi dire, à domicile, d'où l'enthousiasme incandescent du public. Pourquoi? Ben, parce que Angus Young et son grand frère, Malcolm, qui avait fondé le groupe, revenaient dans la ville et le pays. Qui les avait vus naître? L'Écosse. Ils revenaient triomphants. 15 ans avant, en 63, c'était pas si vieux, leur papa, William, avait quitté sa ville natale. Cet homme, alors âgé de 50 ans, était alors un Écossais, loyal sujet britannique, qui avait travaillé comme mécano dans la RAF, Royal Air Force, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à la guerre finie, il s'était retrouvé à prêter ses bras d'un chantier à l'autre. Et cet homme rêvait d'une vie meilleure pour les siens. Imaginez qu'en 63, l'Écosse vivait un des pires hivers de son histoire. 2,40 m de neige dans les rues de Glasgow, dit-on. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est de la gnognotte. William Young a alors vu à la télévision un film de propagande financé par les autorités australiennes. Une réclame, comme on disait dans ces années-là, présentait l'Australie comme une terre promise où tout est possible pour ceux, qui veulent prendre un nouveau départ. D'ailleurs, les Kinks de Ray Davies ont même consacré une chanson à ce rêve australien qui a bercé bien des Britanniques souhaitant une vie meilleure. Alors voilà, sans hésiter, William Young a embarqué femmes, enfants et proches, 15 personnes en tout, dans un avion pour Sydney. Sydney, le premier foyer de peuplement australien au sud de la côte Est, à l'origine une colonie pénitentiaire de l'Empire britannique avait été fondée à la fin du 18e. Et c'est là qu'est née en 73 une première incarnation de AC/DC avec un premier chanteur vite parti avant l'arrivée du fameux Bon Scott. Alors le reste, comme on dit, appartient à la légende. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi AC/DC ce soir? Eh bien parce que, comme je vous l'ai annoncé hier, l'envie brusque m'est venue la semaine dernière d'aller, j'en pouvais plus, comme tout le monde, d'aller chercher les meilleurs enregistrements live de l'histoire du rock au sens très large, rock and roll, blues, soul, funk, etc., pour des raisons que j'ai pas besoin d'approfondir. Ne plus pouvoir écouter de musique vivante depuis un an, si on accepte quelques fenêtres qui sont ouvertes pour aussitôt se refermer, ne plus pouvoir sentir autour de soi des corps qui se balancent, des bras qui se lèvent, ne plus voir de visages qui s'abandonnent, ne plus entendre autour de soi des voix criant à l'unisson, c'est une frustration qui devient de plus en plus difficile à supporter. Alors voilà, toute cette semaine, on va se rappeler que la musique s'écoute au milieu des autres, dans un bain de foule, voilà, c'est une belle expression au fond. Alors voilà, il y a plus de 50 ans, au début du printemps 1970, est paru un album dont déjà la pochette avait quelque chose de cinglant. Il s'appelait Live at Leeds et c'était signé par le groupe londonien The Who. On disait les Who, certains les Who, c'était plus facile à prononcer. Donc les Who avaient publié Tommy, un mémorable opéra rock qui était un must pour les lycéens de l'époque. Et tout à coup, surprise, ils reviennent avec un album live dont la pochette imitait celle d'enregistrement diffusé illégalement, ce qu'on appelait les disques pirates, c'est-à-dire un fond blanc avec juste la marque d'un tampon, voilà, où il y avait marqué Live at Leeds. Alors, il y avait des disques de pirates de Dylan, des Stones, extrêmement convoités, souvent on les payait très cher, des bandes volées, on savait pas par qui, on savait pas comment, sur lesquelles les passionnés se précipitaient. Alors, ce qui était frappant dans le cas des Who, c'est qu'ils avaient choisi eux-mêmes d'imiter ce côté sale, volé, et de s'approprier symboliquement, en accord avec leur maison de disques, Polydor, ce procédé de voyou. À l'intérieur de l'album était glissée une affiche austère, en noir et blanc, qui montrait Pete Townshend exécutant un de ses fameux moulinets à la guitare. Et l'affiche annonçait un des premiers concerts du groupe au Marquis à Londres avec cette mention Maximum Rhythm and Blues. Après les chatoiements baroques de Tommy, eh bien cet album marquait une sorte de retour aux sources, comme un passage, si vous voulez, de la couleur au noir et blanc. Un des titres les plus forts de cet album live des Who était cette reprise de Moose Allison, Young Man Blues, d'une rare intensité, un concentré d'énergie qui allait inspirer quantité de groupes dans les années 70 et entraîner une avalanche d'albums live.
Well, a young man ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Hey, hey, mama, said the way you didn't get my fill.
Parlait tout à l'heure de disques illégaux, l'enregistrement des deux concerts qu'a donné le groupe Led Zeppelin, bah c'est lui qu'on vient d'entendre, en juin 1972 à Los Angeles et dans sa région, a longtemps circulé sous forme de disques pirates, des bootlegs, hein, comme on disait. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'étonnant parce que Led Zeppelin est un des groupes qui, dans les années 70, a suscité le plus de dévotion. J'en souviens, il y avait une mystique autour d'eux. On disait que Jimmy Page pratiquait la magie noire, hein, dans la demeure du, entre guillemets, guillemets, mage Aleister Crowley, un maître S sciences occultes, dont il avait racheté la demeure dans les Highlands écossaises, pas loin du fameux Loch Ness. Il a carrément vécu là, d'ailleurs, plus de 20 ans. Alors, la pochette du quatrième album de Led Zeppelin, où figure la version d'origine du titre qu'on vient d'entendre, Black Dog, montrait la photo d'une espèce d'homme des bois, sorte de gnome maléfique, courbé sous le poids d'un tas de fagots qui portait sur son dos. Elle était fixée, cette image, dans un vieux cadre, cloué sur le mur décrépit d'une maison qu'on imaginait abandonnée. Il y avait quelque chose de maléfique. Alors, l'album avait pour titre des caractères d'une langue inconnue, sorte de rune imaginaire, ce qui aidait à imaginer voilà toutes sortes de choses bizarres. Alors, ajoutez à ça la réputation de débauche qui suivait le groupe et son entourage en tournée, vous aviez le cocktail idéal pour fasciner des adolescents sages rêvant de transgression. D'autant que des ligues de vertu aux États-Unis commençaient à dénoncer le hard rock comme un foyer d'obscénité et de satanisme, ce qui contribuait naturellement à le rendre d'autant plus attirant auprès d'une certaine jeunesse. Bref, ce n'est que tardivement, en 2003, qu'est sorti sous le titre de How the West Was Won. D'ailleurs, à l'origine, c'était le titre en VO d'un célèbre western à la conquête de l'Ouest. C'est qu'est sorti donc sous ce titre l'enregistrement de ces concerts incandescents donnés par Led Zeppelin en Californie en l'année 1972. Alors voici à présent autre chose. Enfin, c'est assez proche, puisque ceux qui aimaient Led Zeppelin l'aimaient aussi beaucoup. Un des musiciens qui, au début des années 70, faisait sur scène le plus d'étincelles. Alors c'était tout à fait le contraire, même l'opposé, pour ce qui touchait à l'image de Led Zeppelin. Ben oui, je veux parler de l'Irlandais du Sud, hein. Rory Gallagher, il venait de Cork et il se présentait sur scène dans ces années-là en épaisse chemise à carreaux de bûcheron, ce qui était alors une sorte d'anti-image, hein, d'anti-mode, rien à voir avec le grunge 20 ans après. Il avait des patogas et surtout un grand sourire joyeux, rien de mystérieux, rien de débauché, rien de décadent, plutôt le contraire, enfin même si Rory avait une impressionnante descente d'alcool, il a tristement payé de sa vie puisqu'il a disparu prématurément en 1995 à moins de 50 ans. Les nombreux albums qu'il a publiés sont bons. C'était un guitariste mandoliniste hein, aussi et chanteur éblouissant, mais sur scène, alors il allait au-delà, plus loin, c'était indescriptible. Cette version d'un blues traditionnel qui s'appelle Bullfrog Blues que je vous propose a été captée fin 1979 dans une salle de San Francisco. On a pu la découvrir dans un album posthume hein, signé Rory Gallagher qui est sorti il y a 10 ans seulement en 2011 et qui s'appelle Notes from San Francisco. We'll be right back.
future. It's gonna make me rock on, man.
Un groupe oublié peut-être, mais quelle pêche. Voilà, vous l'avez entendu, ça ne date pas d'hier. Hein. Cet enregistrement carrément a été réalisé il y a 50 ans, bon, à quelques mois près, en mai 1971, par un groupe qui, étrangement et même injustement, n'a pas fait l'objet de ces réévaluations et réhabilitations dont bénéficient les talents les plus obscurs des années 70. Ici, je vous dis Humble Pie. Je doute que ça évoque grand-chose à beaucoup de monde. Et pourtant, ce groupe anglais a réuni dans la première moitié des années 70 deux des plus brillants musiciens de cette génération si riche hein, du rock rhythm and blues anglais des grandes années. Steve Marriott, il avait joué un rôle de premier plan au sein des Small Faces, un groupe londonien qui avait connu un succès comparable aux Who et aux Kinks. Et puis, il y avait aussi un jeune, très jeune guitariste prodige, Peter Frampton, un camarade de jeunesse du futur David Bowie. Et oui, ils avaient été élèves du même collège technique dans une banlieue de Londres. Alors, Peter Frampton avait été lancé à 16 ans, imaginez, dès 1966, comme un petit prodige, un chanteur et guitariste d'un groupe alors complètement oublié qui s'appelait The Herd, voilà, comme le troupeau, et dont la musique, bien dans le ton de l'époque, était une sorte de soul psychédélique légère, typiquement anglaise, qui a gardé d'ailleurs tout son charme et qui constitue une des sources, il faut pas l'oublier, de la musique de David Bowie. Alors à la fin des années 60, imaginez que Marriott et Frampton, qui n'avaient même pas 20 ans, se sont retrouvés embarqués dans une séance d'enregistrement pour qui ? Eh bien pour Johnny Hallyday, et oui, et c'est là qu'ils ont scellé un pacte, faire un groupe ensemble. qu'on a présenté, alors c'était le lexique de l'époque, comme un, entre guillemets, super groupe. Oui, c'était une période un peu folle, où on pensait que plus il y avait de stars et de jeunes virtuoses dans un groupe, plus celui-ci allait faire une musique forcément extraordinaire. D'ailleurs, il avait été, par exemple, question que cette année-là, 69, Eric Clapton se joigne aux Beatles, par exemple, afin de remplacer George Harrison, et d'ailleurs, ça a été à deux doigts de se faire. Alors, Marriott et Frampton, alors forcément, on se disait, ça va faire des étincelles, on allait voir ce qu'on allait voir. Alors, prudemment, les deux garçons ont choisi pour leur groupe le nom de Humble Pie. C'était un peu par antiphrase, parce que ils voulaient pas qu'on leur reproche d'être des vantards, puisque to eat Humble Pie, en anglais, c'est une expression qui correspondrait à notre courbé et l'échine. Alors, sauf que, malgré des débuts prometteurs, le premier concert de Humble Pie a de fait assez bien marché, le plan n'a pas du tout fonctionné. L'association des deux, entre guillemets, génies, hein, malgré leur talent et leur ferveur, n'a rien apporté d'exceptionnel. Faut dire que la concurrence était rude avec Led Zeppelin, Rory Gallagher et quelques autres de ce calibre. Mais Humble Pie n'a pas lâché l'affaire. Au contraire, le groupe, d'ailleurs, a été sauvé de l'échec par un manager américain qui y a cru et qui a poussé les musiciens à faire ce qu'ils avaient faire de mieux, du blues, du boogie, de la soul avec toute leur jeunesse, tout leur cœur. Les musiciens ont écumé, mais alors tous les bars et boîtes où on voulait bien d'eux, dans les 52 États des États-Unis, et ça a fini par prendre. Il y a eu, comme on dit, un bouche à oreille qui a conduit le célèbre promoteur Bill Graham, l'homme grâce auquel en grande partie Woodstock est arrivé, à programmer Humble Pie au Fillmore East, hein, celui de New York. Et le groupe y a enregistré son concert exceptionnel, et la maison de disques américaine A&M a publié un double album live en 71, un modèle du genre Performance, Rockin' the Fillmore, un album qui a connu un immense succès et qui a servi de tremplin à la carrière solo de Peter Frampton. Mais alors c'est une autre histoire. Autre moment de légende à présent, c'est le concert d'adieu du groupe The Band. Il a eu lieu sur la scène du Winterland Ballroom de San Francisco en novembre 76. C'était pour la fête de Thanksgiving. Alors The Band, qui était lassé par une vie consacrée à la musique, aux enregistrements, aux tournées, fêtait pour l'occasion son enterrement en beauté. Alors il avait invité pour l'occasion des invités de prestige, justement Bob Dylan, que The Band avait bien sûr accompagné en tournée, Eric Clapton, Joni Mitchell, Van Morrison, Dr. John. On les voit tous dans le film que Martin Scorsese a consacré à cet événement qui s'appelle The Last Waltz. Mais le moment le plus extraordinaire, et je m'en souviens d'ailleurs comme si c'était hier, j'ai vu ce film et mes cheveux, j'en avais beaucoup plus qu'aujourd'hui, se sont dressés sur ma tête, c'est la fulgurante apparition du hiératique et malicieux Muddy Waters, sorte de statue du commandeur du blues. Et quand il arrive sur scène, il se passe un truc incroyable, l'atmosphère s'épaissit, l'attention s'aiguise, tous les nerfs se tendent, c'est Muddy Waters qu'on entend ici avec The Band, à défaut de le voir, dans son classique Manish Boy.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. When I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want to leave me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I'll spell him a child in that rather than me. No B.
No.
Oh, child. Why? That mean manish boy.
Mean! Yeah!
I'm a full grown man.
Mean!
I'm a natural born lover's man.
Mean!
I'm a rolling stone. I'm a hoochie-coochie man, sitting on the outside, just me and my mate. Y'all know I made the moon, honey, come up 2 hours late. Wasn't that a man?
Yeah!
I spell him in that rubber thing. I'm grown, no beef,
no.
Oh child, why that mean manish boy? I'm a full grown man.
Man,
I'm a natural born lover's man.
Man,
I'm a rolling stone.
Man,
I'm a hoochie coochie man. Miss when I make love to a girl, she can't resist. I think I go down to old Cassie Stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, girl, and 5 minutes time. Ain't that a man?
Yeah.
I'll spell him H-I-N. That rubber thing, man. Boy,
man,
yeah. I'm a full grown man.
Man,
I'm a natural born lover's man.
Man,
I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man.
Muddy Waters dans une version exceptionnelle de Manish Boy. C'était sur la scène du Winterland de San Francisco en fin 1976 avec le groupe The Band qui faisait ses adieux, et c'était l'occasion d'un film magnifique qui s'appelle The Last Waltz, où on voit, voilà, c'est d'ailleurs c'est un film qui a été, c'est un concert qui a été en fait monté spécialement pour être filmé par Scorsese, qui en a fait vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, je suis parfaitement conscient du caractère arbitraire que peuvent avoir mes choix de musique live, parce que des albums live dans l'histoire de la musique enregistrée, il y en a évidemment plein, que ce soit d'ailleurs, c'est pas seulement dans l'histoire du rock, dans l'histoire du jazz, de la variété, de la musique classique, enfin, c'est à l'infini. Mais j'ai essayé de trouver ceux qui transmettaient le plus de chaleur, qui faisaient le plus sentir un esprit de communion entre les musiciens sur scène et le public. Alors j'ai commencé ma sélection d'hier soir par James Brown. Il était normal que je termine cette soirée par quelque chose d'aussi funky. Alors malheureusement, on n'en va pas avoir le temps d'écouter Parliament, j'avais prévu. Mais d'ailleurs, je voulais vous dire à ce sujet que si vous avez des suggestions vraiment d'albums live, de séquences live qui vous ont marqué et vous avez des enregistrements en tête qui pour vous sont exceptionnels, n'hésitez pas à nous en faire part sur le site de l'émission et si ça se trouve, je sais pas, peut-être il y aura une autre semaine où je pourrais programmer en faisant le tri parmi tout ce que vous suggérez. Mais c'est pas évident de combiner tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Alors assez parlé. on va je vous propose d'écouter un groupe enfin qui est très funky. Pourtant c'est un groupe blanc, Little Feat. On pourrait traduire leur nom par mince exploit. Et Lowell George qui a animé ce groupe, un guitariste et chanteur, était vraiment un musicien hors du commun. Hélas, mort prématurément. Il avait grandi à Hollywood. C'était un as de la guitare blues, hein, qui jouait en slide. Vous savez, quand on fait glisser un tube de verre ou de métal sur le manche. Et il avait été l'accompagnateur de Frank Zappa. Bon, qui n'avait pas l'habitude d'engager des manchots. Alors oui, Little Feat était blanc, c'est vrai, mais sa voix était tout à fait noire. Et son assimilation de divers styles et rythmes, dont celui de la Nouvelle-Orléans en particulier, était d'une finesse à rendre tous les musiciens jaloux. Je vous propose donc d'écouter un enregistrement de Little Feat. C'était en 1977 sur une scène de Washington et la chanson s'appelle Spanish Moon. We'll be right back.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
David Bowie, bien sûr, sur une scène d'une banlieue new-yorkaise en 1976. C'est surprenant, un style funky Nouvelle-Orléans auquel on ne l'associe pas forcément. Voilà, c'est fini pour ce soir. Il y aura encore du live demain. Merci à Stéphane Ronxin qui m'a distrait, mais enfin bon, je lui pardonne. Merci qui a réalisé l'émission. Merci à Ronan Mahé à la technique. Merci Zora Ben Smiley, Romain Couturier et François Merlin.